En coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
1859, archéologue et géologue dans l'épaisseur du temps, c'était le thème du colloque qui s'est déroulé fin juin 2009 à l'Institut de paléontologie humaine à Paris. Deux jours de conférences qui avaient pour but de retracer historiquement les origines de l'archéologie préhistorique en tant que discipline internationale, et l'angle choisi était celui du questionnement archéologique et géologique sur les plus anciennes industries du nord de la France et de l'Europe. Canal Academy, partenaire de cet événement, a choisi une sélection d'intervenants et vous retransmet ce colloque en quatre parties. Dans le premier volet, retrouvez Stéphane Tirard, maître de conférence des universités à Nantes sur le développement du courant évolutionniste. Dans une deuxième partie, retrouvez les Espagnols José Lanzarote, doctorant à l'Institut universitaire européen, et de José Farrugia de la Rosa, doctorant à la Société espagnole d'histoire de l'archéologie à Tenerife, sur la naissance de la préhistoire méditerranéenne. Le troisième volet vous propose de vous intéresser au regard des religieux sur cette nouvelle discipline qui était alors la préhistoire dans la deuxième partie du XIXe siècle, mais également à l'arrivée de la préhistoire en Pologne grâce à l'immigration, l'État infligeant de fortes répressions envers les scientifiques. Dans cette quatrième et dernière partie, Florence Bouvry et Denis Vialou vous proposent de vous intéresser à l'art dans la préhistoire. Florence Bouvry, professeure agrégée en arts plastiques à l'université Michel de Montaigne Bordeaux 3, nous parle du jugement de l'homme moderne sur le mésolithique et de ses productions esthétiques qui ont évolué au cours du temps. Et puis Denis Vialou, quant à lui, nous donne une approche philosophique de l'homme préhistorique face à l'art. Un raisonnement plein de malice de Denis Vialou, professeur au département de préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Tout de suite, Florence Bouvry.
Ma présentation se déroulera comme suit. Pour comprendre pourquoi l'art de la séquence mésolithique a été si longtemps ignoré, voire même méprisé, sinon condamné, en tous les cas jugé sévèrement quant à ses qualités artistiques, il nous faut revenir sur les influences qu'ont eues les idées évolutionnistes, positivistes, ethnocentriques, sur le jugement d'intellectuels et scientifiques occidentaux qui associèrent progrès technique à évolution d'une société tout en cultivant la nostalgie de la culture antique. Le XIXe siècle fut, comme nous le savons, un siècle de révolution industrielle, mais aussi de curieux paradoxes. Un siècle dans lequel, alors que la théorie de Charles Darwin révolutionnait la pensée, des préhistoriens révélaient l'apparition de l'homme au Pléistocène, les peintures d'Altamira, Cantabrie en Espagne, les microlithes et les galets gravés peints du Mésolithique, au moment même où l'Europe rencontrait les sociétés primitives contemporaines de la culture occidentale civilisée. Et une fois les jugements posés établis, je m'efforcerai d'identifier les causes, les origines qui ont valu au Mésolithique de ne pas être considérée comme une civilisation qui a gagné ses lettres de noblesse, reconnaissable dès l'instant où elle est désignée sous le vocable « âge », l'âge mésolithique, au même titre que l'âge paléolithique et l'âge néolithique. Il faudra attendre près d'un siècle, 1978, date de la thèse du docteur Jean-Georges Rozoy, pour établir une position militante en contrepoint des idées de dégénérescence généralement énoncées à l'encontre du mésolithique. Et je reviendrai sur ce que signifie la modernité au temps de Napoléon III et de Jules Grévy, où d'une part, les tenants de l'art officiel encensent un art à la perfection antique et au savoir-faire de la Renaissance, et dont Jean-Dominique Ingres, directeur de l'Académie des Beaux-Arts en 1850, en est un parfait exemple. Et d'autre part, l'impressionnisme qui révolutionna les arts du temps et de l'espace par sa vision flottante du monde, jetant le doute sur des schèmes et des convictions mises en place à la Renaissance, source de référence et d'assurance. Le monde bouge, il n'est en rien immuable, l'impressionnisme s'inspire de l'Orient, et soudain, les artistes à travers les colonies découvrent d'autres civilisations. La modernité, c'est aussi mettre en parallèle le modèle d'une civilisation occidentale dite « évoluée », qui toise de sa suffisance les autres sociétés aux étiquettes primitives, sans histoire, dont on préfère aujourd'hui sans écriture. Société qui n'aurait pas développé de connaissances historiques, société immuable, sans changement au cours du temps, qui façonne des objets considérés au mieux comme artisanat. La découverte de ces objets esthétiques, différent de ce que les Occidentaux connaissaient, enclenche une réaction de négation. Ce n'est pas de l'art. Mes connaissances fondées sur des a priori, d'ordre à la fois culturel et racial, objets hermétiques parce qu'ils sont issus de paramètres mentaux absolument éloignés de l'héritage gréco-romain et des concepts religieux monothéistes. C'est donc dans ce contexte que l'on désigna cette période obscure, en référence au Moyen-Âge, qui se situe entre l'art paléolithique et l'art néolithique, qui démarre au paléolithique final, dans les cultures de la fin du tardiglaciaire, à l'Allel Road, vers 9850-8850 avant Jésus-Christ, et qui s'achève avec le début du néolithique entre 4000 à 3000 ans avant Jésus-Christ. Pouvait-on décemment parler d'art à propos des objets mésolithiques, gravés et ou coloriés de traits informes, ornés de motifs géométriques, sans figuration, naturalistes, réalistes? Nous terminerons sur cette question qui fut, entre autres, l'objet de notre thèse, une anthropologie des manifestations esthétiques du mésolithique européen de la fin du tardiglaciaire et durant le post-glaciaire. Parce que la question de l'altérité est au centre de notre réflexion, nous nous sommes attachés à redonner sa place à l'art du mésolithique, jugé à l'aune des arts des peuples sans écriture, exposé en 1851 à l'exposition universelle. Je voudrais une phrase encore que l'on trouve en 1986, « La chasse aux lapins ou la collecte des escargots ne sont pas de nature à sous-tendre une mystique de la chasse et à inspirer un grand art pariétal. Un art de chasseur attardé, l'art arctique et l'art expressionniste du Levant, même dans le mobilier ordinaire, toute trace d'art, de sculpture ou gravure disparaît. Seul témoignage d'art, mais on hésite à employer ce terme, les épaves d'un air perdu, les galets-peints asiliens. » C'était Jean Abélanet. Alors, au XIXe siècle et au XXe siècle, les arts plastiques, tout comme la musique, ont à ce point révolutionné le regard et l'oreille en s'ouvrant sur les cultures du monde qu'il était difficile d'accepter de tels propos particulièrement réducteurs pour nous qui sommes spécialistes du champ artistique, arts plastiques et sciences de l'art. Revenons sur le contexte du XIXe siècle où l'année 1859 est considérée comme la date de naissance de la préhistoire constituée en tant que discipline autonome. C'est à cette date où les deux chercheurs anglais sont venus à Abbeville pour comparer leurs découvertes avec celles de Jacques Boucher de Perthes. Et c'est à cette date donc où ils concluront à la coexistence de l'homme et des espèces animales disparues. Les principes religieux et philosophiques, alors en vigueur, n'accepteront l'ancienneté de l'homme et de sa contemporanéité avec les espèces animales fossiles qu'avec beaucoup de difficultés. Les sciences et techniques ont fait des progrès rapides et impressionnants. Ces nombreuses découvertes et innovations vont complètement remodeler notre pensée et façon de vivre. Le 19e, début 20e, c'est le développement extraordinaire des chemins de fer, des steamers, bateaux à vapeur, de l'ouverture du canal de Suez en 1869, qui diminue considérablement les temps de parcours et rapproche les continents encore plus ou moins inexplorés. Des sociétés d'ethnologie se créent en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Allemagne. Dès 1870, les sociétés de géographie encouragent des expéditions de découverte. C'est l'époque des grandes expéditions, puis de séjours individuels. Le 19e siècle, c'est aussi la croissance démographique sur le continent européen qui est à l'origine en partie d'un nouvel élan de l'expansion coloniale. Cet impérialisme est motivé par la recherche de nouveaux marchés, de nouveaux espaces propres à accueillir les migrants pauvres de l'Europe et aussi la volonté de civiliser les nations barbares. Le député Jules Ferry justifie la politique coloniale à la Chambre des députés. Les races supérieures ont un droit, elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Le 19e siècle, c'est aussi les premières expositions universelles. Elle représentait la vitrine technologique et industrielle des participants, témoignant du progrès occidental. Ces diverses expositions avaient pour objectif, d'une part, donner à voir l'empire européen dans son immensité et sa diversité, d'autre part, rendre familières les populations colonisées à une époque où les Européens se les représentaient si mal. Les occasions de s'évader sont rares au milieu du 19e siècle, début du 20e. La photographie, le cinéma n'en sont qu'à leur début. Les voyages sont un privilège réservé à une toute petite élite aristocratique, voire bourgeoise. C'est donc lors de ces expositions, foires diverses, que les Européens, tout public confondu, ouvriers, scientifiques, politiques, hommes de lettres, vont découvrir pour la première fois les colonisés dans leur environnement reconstitué. Au jardin tropical, les visiteurs pouvaient faire un tour dans le souk du pavillon tunisien. Ils appréciaient les spectacles donnés par des danseuses malgaches. Ils avaient la possibilité d'assister au rite des fidèles dans un temple indochinois. Ils voyageaient. Et pour renforcer l'idée que le colonisé est plus proche de l'état de nature que de culture, il est tourné en dérision. Des reconstitutions pseudo-ethnographiques, véritables spectacles zoologiques, sont présentés au public, hommes et femmes de sociétés primitives, mélangés dans les enclos avec des bêtes sauvages, rabaissant ainsi cet autre lointain à un niveau d'animalité et de sauvagerie. Ce qui renvoie à la pensée primitiviste qui tenait les sauvages pour des barbares, où l'opposition sauvage-civilisée devient l'illustration d'une dynamique historique considérée comme universelle. Ces manifestations construisent une frontière invisible mais tangible entre l'homme blanc et les peuples des colonies. Il y avait eux, sous-entendu les bons sauvages, et nous, les visiteurs, les civilisés. Il y avait eux qui n'auraient pas quitté l'enfance des premiers âges, pour entrer dans l'âge adulte. Aux yeux du public, la civilisation occidentale, la race blanche, apparaît de fait au paroxysme de l'évolution, société supérieure au haut de l'échelle, tandis que les populations des autres continents, populations de couleur, sont cataloguées tout au bas de l'échelle, race inférieure. Le premier contact réel entre l'Occident et l'autre lointain se conclut par une différenciation nette des hommes et des cultures. C'est aussi au XIXe siècle qu'une découverte majeure, capitale, eut lieu quelques années avant la mise au jour de la périodisation du Mésolithique. Ce morceau d'ivoire gravé est doublement révolutionnaire. D'une part, il confirme l'ancienneté de l'homme. D'autre part, la découverte de l'existence d'un homme antédiluvien est-elle à peine posée, que déjà cet homme se place sous le signe du paradoxe. Le caractère primitif de son industrie est en totale contradiction avec ses œuvres d'art d'un réalisme étonnant, qui témoigne d'une idée de la perfection, perfection du tracé et de la restitution de la réalité. On se serait attendu à voir les premières compositions entachées de maladresse, parce que la plénitude, suivant la théorie du progrès, ne pouvait être atteinte qu'après un long cheminement. C'est donc dans ce contexte de la deuxième moitié du XIXe siècle que le Mésolithique a été mis au jour, au moment de la découverte d'hommes fossiles et de sociétés primitives au statut paradoxal, bien qu'elles soient observables au présent, la théorie du progrès les renvoie dans un lointain passé. Au moment de la découverte du Mésolithique, un âpre débat sépare partisans et détracteurs à propos d'un hiatus, d'une discontinuité dans l'occupation de l'Europe entre le Paléolithique et le Néolithique. À l'Exposition universelle de Paris, on pouvait remarquer une vacuité bien distincte entre les deux espaces de représentation du Paléolithique et du Néolithique. Hiatus après le Magdalénien, le vide. Et cette vacuité ségrégative fut longtemps dans les idées, même si le géologue préhistorien Gabriel de Mortillet avait affirmé « ce hiatus n'est pas réel, ce hiatus est une simple lacune de nos connaissances ». En 1888, pour la première fois apparaît le terme mésolithique, Archibald Carlyle décrit une industrie de petits silex découverts en Inde, placée entre le paléolithique et le néolithique. Ce ne sont pas les silex découverts à l'époque. En 1909, Jacques-Jean-Marie de Morgan propose le vocable mésolithique pour qualifier toutes les industries intermédiaires comportant beaucoup d'instruments communs avec ceux des Magdaléniens et des formes nouvelles ne comprenant pas d'outils en pierre polie. Cela a permis pendant longtemps de loger dans des tiroirs mésolithiques tout ce qui n'était plus vraiment magdalénien et pas encore néolithique, les industries transitoires. À la fin du tardiglaciaire, au paléolithique final, les débitages laminaires paraissent en régression par rapport à ceux de la fin du paléolithique supérieur. Une certaine représentation des animaux fait son apparition. Puis, l'emploi de l'arc et de la flèche en particulier se généralise sur les continents européens, ce qui va induire une microlithisation des armatures de chasse. Au Mésolithique stricto sensu, au pré-boréal, entre 8050 et 7050 BC, du nord au sud de l'Europe, la systématisation du décor géométrique, le style non figuratif, envahit la représentation. Ces mutations technologiques et esthétiques paraissent à l'époque signes de quelconque, de régression culturelle, comparées aux systèmes techniques et aux esthétiques du paléolithique et du néolithique. Ces témoins ne semblent pas dignes d'être le reflet d'une civilisation, d'un âge. Cette idée d'une période antichambre, corridor, coincée entre le paléolithique, splendeur, et le néolithique, renaissance, s'est progressivement imposée et va perdurer jusque dans les années 1980. Le vocable mésolithique désigne alors le Moyen-Âge préhistorique par comparaison au Moyen-Âge européen qui se définit comme une période de gestation et de construction de l'Europe conquérante, berceau de la production industrielle et des échanges généralisés. Revenons quelques instants sur la théorie du progrès qui connaît au XIXe siècle son apogée. Les termes de progrès et de civilisation tendent en même temps à devenir synonymes. L'histoire de l'humanité est divisée en stades successifs, marquant les différentes étapes de son progrès. Les sociétés primitives renverraient aux Occidentaux l'image de leur propre passé. Elles seraient nos ancêtres contemporains, tandis que l'Occident leur présenterait celle de leur avenir. Cette philosophie du progrès qui conduit l'historien Pierre Houppol Lacombe a proposé en 1894 « Je demande que les civilisations soient mesurées entre elles, d'abord au maître de la science que chacune a contenue. » C'est dans ce contexte que se développe l'idée de race, d'inégalité, différence, biologiquement donnée, notion appelée à rendre compte de la stagnation culturelle des populations non occidentales. Il faut comprendre pourquoi, si toute l'humanité est soumise au même mouvement historique, certaines sociétés ont progressé, tandis que d'autres paraissent figées dans une irrémédiable primitivité. L'inventaire ethnologique des hommes primitifs, leur classification raciale et culturelle commençait à peine. Les sociétés dépourvues du processus d'évolution ou de progrès seraient donc chronologiquement les premières, ce qui les placerait dans un lointain passé. Cependant, elles sont au présent, nos contemporaines, ce qui les distingue des sociétés préhistoriques et justifie leur appellation de primitives. Cette évolution décalée dans le temps, observée à partir ou par comparaison des sociétés primitives contemporaines que l'on découvrait, devait permettre d'éclairer le passé à la lumière du présent. Elle confirmait les différents stades d'évolution technique de la périodisation du paléolithique archaïque inférieur moyen supérieur et des styles de 1 à 4 de le roi Gourand en art. Les derniers chasseurs-cueilleurs de la fin du tardiglaciaire et du post-glaciaire seront mesurés, jugés à l'aune des sociétés primitives contemporaines que l'on étudiait alors. Si l'on s'appuie sur la théorie du progrès, la régression des débitages laminaires observés dans l'outillage, la microlithisation, les esthétiques représentaient des sociétés dépourvues du processus d'évolution en comparaison de la perfection technologique du travail sur os de la civilisation magdalénienne du paléolithique supérieur, de fait placée en haut de l'échelle. Ce recul technique impliquait un indice d'infériorité et donc de primitivité antérieure à l'évolution dans le classement des civilisations. Les chasseurs-cueilleurs de la fin du tardiglaciaire et post-glaciaire sont classés au bas de l'échelle évolutionniste par comparaison aux civilisations préhistoriques et magdaléniennes en particulier. En conséquence, il n'était pas intelligible, concevable d'étudier et de penser le dernier chasseur-cueilleur mésolithique de l'Europe comme une civilisation à part entière parce qu'ils apparaissaient en régression dépourvus de processus de progrès par rapport aux magdaléniens, âge d'or technologique de l'humanité préhistorique et qu'ils renvoyaient une image de primitivité, tout comme les sociétés primitives contemporaines renvoyaient aux Européens du XIXe siècle, âge d'or de l'humanité technologique occidentale, l'image de leur propre passé. Pour conclure sur ce point, si l'on accepte le travail de Jean-Georges Rozoy, conséquemment de cette vision du mésolithique au moment de sa découverte, de cette primitivité, l'étude du mésolithique a pendant longtemps été le domaine d'érudits locaux bénévoles. De fait, le mésolithique n'a pas été pensé dans une vision globale d'une périodisation, mais dans un inventaire de détails de petits groupes empêchant de saisir les tendances les plus marquantes de la période et de lui reconnaître une identité à part entière. Nous arrivons à notre dernier point d'analyse. Dans la notion inversée de progrès, il y a l'idée qu'une carence dans un domaine affecte tous les autres domaines. L'infériorité technique d'une civilisation implique d'une part un classement inférieur, ce que nous venons de voir, la primitivité du mésolithique, et d'autre part une infériorité artistique, ce que je me propose d'analyser dès à présent. Dans la fin du XIXe siècle, dans le champ de la réflexion sur l'évolution de l'art, La hiérarchie des arts s'harmonise avec le niveau des civilisations qui les pratiquent. La plupart des scientifiques, savants, peu connaisseurs et plus accrochés aux œuvres antiques qu'étudie l'histoire de l'art, partagent les valeurs esthétiques prônées par l'académisme du XIXe siècle. Le grand public et le monde savant, non initiés à l'art, ne perçoivent encore l'art que comme une adresse due à des dons naturels par lesquels on s'y prend de telle sorte que l'on obtient une perfection. Dès le début du XIXe siècle, la théorie de l'art-imitation est reprise par les néoclassiques. La notion de maîtrise devient une notion d'excellence. Le néoclassicisme et le mode antique sont les modèles absolus et les types de référence obligés durant tout le Second Empire. Dans la quête sur l'origine sur l'art, un consensus existe. Le balbutiement du savoir-faire ou l'incapacité à figurer, abstraction, géométrisation, doit évoluer vers une représentation naturaliste, une maîtrise de la technique. Ce qui donne lieu, d'une part, à des théorisations qui s'appuient sur l'étude des motifs ornementaux géométriques, connus pour être les plus anciens en architecture, pour démontrer que la phase non naturaliste géométrique d'un art est nécessairement la plus ancienne. D'autre part, ces théories génèrent une esthétique naturaliste qui classe les œuvres d'art selon l'imitation exacte de la nature, véritable dogme, imité par souci de connaissance et de maîtrise du monde environnant. Quel statut donner alors aux galets peints et gravés du mésolithique primitif qui se réduisent à des objets décorés de signes géométriques qui n'imitent en rien la nature? Le critique d'art Alois Rilge, autrichien, démontre que la phase la plus géométrique d'un art quelconque est nécessairement la plus ancienne, puisqu'elle exclut la forme vivante, la forme naturaliste, et parce qu'elle se rencontre chez les peuples qui n'ont pas dépassé le stade le plus primitif de leur culture, le stade de l'enfance. D'après notre lecture, nous pouvons considérer, d'une part, que les productions décorées des hommes du début du Mésolithique, les galets peints ou gravés de signes géométriques, représentent nécessairement la phase la plus ancienne de l'art, le premier échelon de l'évolution de l'art, le premier degré. D'autre part, dans l'adjectif géométrique, il y a l'idée du décoratif, ornementation géométrique en architecture. Dans la hiérarchie des arts, l'art décoratif, art avec un A minuscule, puisqu'il s'attache à l'objet, à sa fonction, est opposé à l'art avec un A majuscule, domaine des beaux-arts. La distinction est apparue à la Renaissance, le créateur d'objets est un artisan, alors que le créateur d'œuvres picturales ou sculpturales est un artiste. L'un est ouvrier, l'autre est divin. Les objets mésolithiques ornés de motifs géométriques relèvent de l'art décoratif avec un A minuscule. L'historien de l'art Georges Roch souligne le seul fait d'accoler au terme art un qualificatif est une marque dépréciative, un signe de minoration. On crée une dissymétrie entre les beaux-arts comme art majeur et art décoratif comme art mineur. Majeur-mineur repose sur l'opposition grand-petit, ce qui renvoie à une hiérarchie basée sur la croissance biologique. Les arts mineurs seraient inférieurs en ceci qu'ils n'auraient pas encore atteint la majorité propre aux arts majeurs. Les objets ornés de motifs géométriques du Mésolithique sont donc doublement handicapés, parce que géométriques, ils sont un art du premier degré qui n'a pas atteint sa majorité, et art décoratif, un art mineur qui n'est toujours pas majeur. Il me reste un dernier point à finir. Au XIXe siècle, les valeurs esthétiques sont encore imprégnées des idées héritées du peintre Léonard de Vinci. La peinture est le premier des arts. C'est pourquoi Charles Baudelaire écrivit en 1846 « La sculpture est un art des Caraïbes, art des peuples primitifs des autres continents ». Il adhérait aux idées de son époque qui affirmaient que la peinture est l'art des peuples déjà avancés en civilisation. La découverte des objets ornés et des peintures pariétales des Magdaléniens, si éloignée temporellement de la notion de civilisation, bouleverse la réflexion esthétique sur l'art dans la seconde moitié du XIXe siècle. Charles Baudelaire allait devoir repenser ce qu'il disait sur la peinture. Le préhistorien Henri de Clusiot dira « L'art de la Madeleine est même en progrès sur celui des modernes. Voyez ce mammouth, il est d'une réalité saisissante. Un élève de Courbet n'en ferait pas une reproduction plus sincère. » L'art madalénien répondait aux attentes esthétiques de la théorie de l'art imitation. Les peintures préhistoriques du magdalénien sont citées comme l'art suprême, souverain, constitué de figures reconnaissables, peintures naturalistes et virtuoses. Paradoxalement, la découverte des peintures pariétales des Magdaléniens, peuple préhistorique, les hissait au rang de peuple avancé en civilisation et pourtant sans écriture. Parce que imiter, c'est maîtriser la connaissance du monde. Après les peintures de la civilisation magdalénienne, quelle valeur esthétique accorder aux productions plastiques des hommes du Mésolithique, Par comparaison, les esthétiques du mésolithique, dont les figures ne rendent aucune apparence sensible d'un animal, ne peuvent pas être pensées comme étant de l'art. Elles seront niées. Après l'âge d'or naturaliste de la peinture magdalénienne, devant le caractère informel, maladresse, abstrait, qui ne figure rien, géométrique, décoratif, des productions artistiques du mésolithique primitif, la communauté scientifique ne put être que déconcenancée et dubitative. Il pensait assister à une régression par rapport à ce qui précédait, et la réaction fut identique à celle des tenants de l'académisme à la fin du XIXe siècle, qui crièrent au scandale et taxèrent les impressionnistes de faire régresser l'art, d'être un retour à la primitivité, peinture vague qui paraît l'affirmation de l'ignorance et la négation du beau comme du vrai. Je vais m'arrêter là, il me reste une petite page, mais c'est pas grave, ce sera bon.
Chers collègues, bonjour. N'en croyez rien. Il ne faut pas croire les historiens. Ils nous racontent leurs histoires. Et on vient d'en avoir des démonstrations absolument magnifiques pendant ces deux journées. C'est-à-dire que nous nous y retrouvons sur cette sorte de jeu de billard construit par les historiens, tel qu'ils envoient la boule sur une bande où ils vont rencontrer l'élément historique qui va justifier, etc., etc. Non, la critique serait trop facile à faire. Mais je voudrais simplement dire que mon propos ne s'inscrit pas dans une perspective historique, mais qui serait davantage épistémologique. Elle ne s'inscrit pas dans une perspective historique parce que j'en serais bien incapable, je n'aurais pas ces compétences-là. Et bien entendu, je n'ai pas le moindre doute sur le fait que mon propos, comme le leur, comme le vôtre, s'inscrit dans une perspective analytique qui ne cesse d'être justificative. Et là, il y a de véritables enjeux sur le plan épistémologique et sur le plan scientifique qui nous amènent à une certaine réflexion sur le sens même de ce colloque que Noël et Arnaud organisent si bien pour nous tous et si passionnant. Quels sont les enjeux dans la définition de l'homme actuel ? Voilà que pendant deux jours, ils nous ont fait croire que tout était dans le caillou et du côté de la vallée de la Somme. Mesurons un instant l'extraordinaire réduction de cette vision de l'homme. C'est fantastique, c'est-à-dire que nous y avons tous cru, et nous avons raison d'y croire, d'autant plus que cet après-midi même, cette fois-ci, des collègues préhistoriens ont rompu avec le raisonnement historique, mais pour nous montrer à quel point ces fondements historiques qui avaient été mis en avant pendant ces derniers jours sont actuels, et c'était le sens des trois conférences de la première partie de cet après-midi. C'est-à-dire que nous avons à ce moment-là bien mesuré les sortes d'effets de feedback constants, comme dans une magnifique partie de billard où on voit ces boules tourner, tournoyer, pour finalement marquer le point. Alors, le titre de la conférence que j'ai donné cet après-midi est bien sûr provocateur. Et l'art fit l'homme. Avec ce que nous exposait à l'instant Madame Bouvry, vous en avez mesuré l'importance, l'épaisseur à travers l'histoire même de l'art. Mais il se trouve que en 1859, quand il parle, ceux du 19e siècle, et quand ceux du 21e siècle parlent, l'art, ce que nous appelons l'art, est véritablement bien modeste. Vous savez que c'est quelques petits os qui ont été trouvés avec des gravures, le premier en 1834. Je n'ai pas bonne mémoire historique, mais là, pour une fois, j'ai marqué ça. La petite côte gravée de Chaffaut, c'est 1834. Cet objet qui, finalement, avait été mis dans une vitrine du musée Cluny parce qu'on ne savait pas vraiment quoi bien en faire. Elle était un peu pré-celtique. C'est-à-dire quelque chose de quand même très diffus. Et l'os que vous avez vu, pardon, pas l'os, le fragment de défense de mammouth que vous avez vu tout à l'heure, c'est la Madeleine 1864, c'est-à-dire après 59, avec le grand Larté, hein, qui a été évoqué si bien hier. C'est-à-dire que les grands enjeux de démonstration que nos historiens ont si bien montré pendant ces deux jours, les grands enjeux de démonstration précèdent complètement, totalement, la définition de l'homme à travers l'art. Et c'est à tel point vrai, en étant un peu caricatural, que lorsque Altamira a été découverte, bien après, hein, c'est 79, personne n'y a cru. Parce que finalement, ces hommes dont vous nous avez si bien parlé, que vous défendez avec un brio extraordinaire, ces hommes-là, finalement, ce n'étaient pas quand même véritablement des hommes. Ils avaient fait des outils, ils vivaient avec une faune un peu bizarre. Oh, ils n'étaient quand même pas capables de faire d'aussi belles peintures. C'est tout à fait scandaleux d'imaginer ces gens-là d'un passé non connu, non mesuré, capables de faire de telles choses. C'est pour ça que finalement, les seuls capables, je crois, les historiens précisaient, c'était les jésuites du coin qui auraient fait les fameuses peintures d'Altamira. Mais on voit bien que quand cette découverte est faite, l'homme n'est que Faber. Et cette notion de Faber, homo Faber, va dominer toute la première partie du XXe siècle. Elle va dominer dans sa propre conceptualisation, parce que c'est extraordinaire, ce couple homo-faber. On voit bien qu'il y a quelque chose qui nous met dans l'intimité extraordinairement reconnaissante de nos artisans, de ces gens que l'on trouve au fin fond des villes, dans les campagnes, etc. Ceux-là, ils font des choses qui comptent. Ce sont des fabères. On voit bien toute une mesure, toute la profondeur que l'on peut prêter à l'homme technique, à celui qui va pouvoir produire, inventer des formes extraordinaires et dont les musées ATP actuels sont encore une forme de célébration, au moins de mon point de vue. Et le Faber, homo Faber, a eu pignon sur rue, bien sûr, annoncé par un certain nombre de grandes figures sur le plan philosophique, épistémologique, Bergson, au premier rang desquels, en tout cas en France, a eu un rôle extraordinairement intéressant, important. Et si l'on constate ce qui s'est passé au milieu de ce XXe siècle, quand les premières datations sont venues à partir des années 50 de Libye, quand elles sont venues au secours de ces pauvres préhistoriens plus ou moins perdus dans le temps, qui n'avaient pas une idée assez précise de cette dimension du temps, on voit bien qu'à ce moment-là, le fameux Faber n'a pas toujours été le même Faber. Ce que, bien entendu, les fouilles, les éléments stratigraphiques avaient déjà mis en valeur. Personne, depuis les fouilles de l'Arte Christi, en Périgord des années 60, les fouilles de Piette, etc., ne mettait en doute. On n'allait évidemment pas confondre ces grands bifaces avec ces petites lamelles, etc. On voyait bien qu'il y avait évolution, on ne la mesurait pas. Mais à partir du moment où on a commencé à la mesurer, au milieu de ce XXe siècle, on a vu que l'homme avait changé et que ce fameux statut d'homme fabricant, d'homme faber, n'était pas tellement pertinent. Il y a eu Breuil, le fameux pape de la préhistoire, ce Breuil qui a, lui, travaillé sur les subdivisions paléolithique, en particulier du paléolithique supérieur, ce Breuil qui avait qualifié 400 siècles d'art pariétal, qui avait fait de l'homme autre chose qu'un simple faber, mais au bout du compte, quand Arnaud et Noël organisent un colloque 1859, l'homme égale le biface. On fait un petit raccourci choquant. Et nous nous en contentons. C'est-à-dire que d'une certaine façon, avec des ruptures, tiens, il y avait un peu de faune, tiens, il y avait un petit peu d'art, etc. Mais on en est là. Est-ce que l'homme est vraiment venu de l'art. Est-ce que l'art fit l'homme au cours du XIXe siècle? Sans doute un peu de façon accessoire, mais fondamentalement, c'est bien ce que vous avez montré. C'est bien les grands enjeux de la contemporanéité d'hommes au pluriel, avec des faunes disparues. C'est bien cette contemporanéité qui finalement a provoqué cette réflexion sur le passé. L'homme fit l'art, sans doute pas. Mais si nous sautons dans notre époque, maintenant, dans notre présent, de notre réflexion grâce à vous, est-ce que l'art fait l'homme? Non pas fit, mais fait l'homme. Je vois certains sourires sur le visage d'entre vous en se disant, naturellement, il raconte n'importe quoi, il philosophe. Sans doute avez-vous un petit peu raison. Rappelez-vous, un président de la République française, comme dans la vallée de la Somme, il y a quelques années, qui veut faire rentrer au Louvre des objets qui venaient du musée de l'Homme et des objets de préhistoire. Un dénommé Jacques Chirac. La réaction a été extraordinairement vive. La réaction du conservateur en chef du Musée national du Louvre à l'époque, il a répondu, il n'en est pas question. Et à part ce pavillon des sessions qui a été créé, le président de la République qui avait souhaité réunir l'art en tant que tel au Musée du Louvre, a construit le musée des arts premier. Vous voyez bien à quel point il n'y a pas tout à fait gratuité dans tout ça. Est-ce que l'homme est véritablement complètement un homme avec ou sans art? Et dans ce problème institutionnel et politique, il y a un véritable enjeu. Est-ce que les arts primitifs sont véritablement des arts? C'est-à-dire que tout le parcours que nous avons fait, que vous nous avez fait faire, par le rappel, finalement, et peut-être pas tout à fait la confirmation que l'art fit l'homme, qu'Altamira fit l'homme dans une sorte de complétude. J'efface le côté politique, mais qui nous engage tous dans la réflexion, dans l'investissement. Il était question de la création du musée des Antiquités nationales en 1863. Le musée des arts premiers, c'est aussi ce type d'enjeu. Je laisse là. Est-ce que l'art fait l'homme? En ce moment, une des problématiques les plus vives de la préhistoire, en ce moment, traite de l'art par rapport à Sapiens, par rapport à l'homme anatomiquement moderne. À partir de quand peut-on dire que l'homme est auteur d'art? À partir de quand peut-on se reconnaître, nous, hommes modernes, actuels, dans des hommes de la préhistoire? Jusqu'où allons-nous remonter? Il y a un véritable enjeu de définition. Et c'est là, chers collègues et amis historiens, que je vous renvoie la balle. La recherche actuelle montre que si l'on veut définir l'homme, on va passer par une série d'étiquetages, une série d'attributions que l'on veut plus ou moins mettre en valeur. Et en ce moment, cet enjeu sur Sapiens a été bousculé par les dernières découvertes qui ont été faites dans plusieurs endroits, notamment en Afrique, sur le continent africain, dans la partie australe, maintenant au Maroc, avec des formes qui sont, par exemple, des petits objets gravés, des œufs d'autruche avec des signes très structurés, qui sont bien antérieurs à ceux qui nous sont chers, ceux dont nous avons fait des hommes sans problème, des hommes complets. Ils sont comme nous, les auteurs de Lascaux, même Chauvet, quand Chauvet a été découvert, merveilleusement, ont doublé la chronologie. Nous sommes des hommes depuis au moins 35 000 ans, pleinement des hommes. Ces hommes-là de la préhistoire, ils ne sont pas aussi sauvages que ces pauvres Acheuléens qui ne savaient faire autre chose que des bifaces et les enfouir dans les alluvions de la Somme. Enfin, vous avez dit, non, c'est quand même pas sérieux. Eh bien, voilà que du côté africain et dans un certain nombre de sites, on découvre des témoignages de comportements symboliques déjà extraordinairement élaborés d'un point de vue graphique. C'est-à-dire que l'équation que nous avions établie avec une certaine saveur, une certaine jouissance entre des formes d'art aussi extraordinaires, on est tous d'accord, que Lascaux, que la petite dame de Brassempouy, etc., tout d'un coup, reculer dans le temps. Et si cette définition de l'homme par ce qu'il fait n'est pas un bon mode de définition sur un plan épistémologique? C'est là où je reprends donc ce que nous avons discuté, ce dont nous discutons depuis 2 jours. Il se trouve que dans les travaux actuels, pour le moment, c'est les formes, on va dire, modernes, les formes les plus récentes de l'humanité qui sont témoins de comportements symboliques. De comportements symboliques, aussi bien des Néandertaliens avec des éléments de parure, que ces populations autour de 50-60 000 ans, voire plus, jusqu'à plus de 100 000 ans en Afrique australe actuellement. On voit bien que dans ce sens-là, la préhistoire actuelle nous invite à proposer des définitions dans un terme évolutif. Et ce terme évolutif touche directement le cerveau. L'art, c'est sans doute l'homme, mais c'est d'abord le cerveau. Le cerveau qui va produire un certain nombre de comportements sociaux, qui vont être codés et décodés. Alors là, il y a une dimension qui est tout à fait intéressante, parce qu'elle nous permet probablement de traverser la préhistoire de l'humanité, sans doute dès les formes les plus anciennes, c'est-à-dire dès le moment où l'homme n'est plus simplement un singe nu, dès le moment où il est en relation de création les uns par rapport aux autres, avec sans aucun doute toute la symbolique, tous les systèmes de représentation du langage. Il y a quelque chose là qui va très loin dans le comportemental. Et peut-être que dans cette question du comportemental, on retrouve toutes les problématiques qui se mettait en place dès le XIXe siècle, c'est-à-dire la relation à la nature, la relation à l'environnement et le lien social qui finit par créer des conditions qui sont des conditions de manipulation du présent, de production d'éléments nouveaux, d'éléments moteurs pour une société. Si nous baignons dans cette question de la comportementalité, du comportement, on voit bien que ce que l'on appelle l'art n'engage pas que le cerveau. Que le cerveau, par exemple, de ce philhomme sapiens, je le dis dans le sens général, qui se met en place depuis 200 000 ans au moins. Il engage la totalité du corps. Et nous le savons. L'art est jouissance. Simplement pour mémoire, cette évocation d'une page admirable de ce cher Édouard Piett, qui au moment de la découverte de Brassempouy, qui faisait de la petite Vénus pour expliquer comment ces méchants, ces brutaux, ces primitifs chasseurs, tout d'un coup avaient été capables de créer une forme aussi belle. Et Piet nous raconte ça des longues soirées d'hiver au coin du feu, où tout d'un coup on commence à rêver, et c'est l'image de la femme qui s'impose, et on voit cette belle brute épaisse, ce primitif dont vous n'avez cessé de parler, qui fait surgir la femme. Dans le comportement, il y a le corps, il y a le plaisir, il y a ce qui fait la relation au monde, la relation au domaine extérieur, ce qui vient sur le plan sensoriel de l'émotion. Et à ce moment-là, moi qui pensais vous faire une explication intelligente, astucieuse, fondée sur « et l'art fit l'homme, et l'art fait le sapiens en ce moment », je me trouve complètement démuni. Parce que dans les définitions que nous devrions donner des hommes, il faut absolument lui donner l'épaisseur zoologique, c'est-à-dire cet enracinement dans le corps du plaisir. Alors nous, hommes modernes, dès qu'on voit un biface, on regarde la symétrie, on dit « ça y est ». Le biface est le premier témoignage esthétique. Le biface est aussi équilibré que nous comme bipède. Mais nous, on le sait bien à travers toute notre évolution, mais l'esthétique est un mot qui traduit notre relation à la chose sensible, à ce que, par l'art, dans le sens le plus général, nous éprouvons comme émotion, comme plaisir. Et c'est là que finalement, parce que j'en arrive aux 20 minutes, c'est là que finalement, on pense au règne animal. Écoutez-les chanter. Écoutez-les chanter, ces oiseaux. D'ailleurs, certains se sont même séparés du point de vue génétique, d'un côté et de l'autre des Pyrénées, pour certains types d'étourneaux qui ne se reconnaissent plus et qui sont de la même espèce, parce qu'ils ne chantent plus complètement de la même façon. Regardez-les dans leur parade amoureuse, toujours dans les oiseaux, mais on pourrait prendre le cas de certains cousins primates. Regardez-les changer de couleur, changer de forme, s'animer. L'art s'inscrit véritablement dans la vie, c'est-à-dire dans la relation que des individus au sein d'une même espèce sont capables à un moment ou à un autre, avec certains outils conceptuels en ce qui concerne l'homme, d'exprimer. Eh bien, chers collègues, j'en conclus par là, nous avons commencé toutes nos définitions de l'homme par cette relation extraordinaire mise en évidence au cours du XIXe siècle déjà, cette relation de l'homme avec un monde fossile, nous voyons bien que la préhistoire ne cesse de nous provoquer dans un renouvellement de tous ces concepts auxquels l'histoire nous demande de croire, mais l'histoire nous invite à réfléchir. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre Denis Vialou, professeur au département de préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle à Paris, Florence Bouvry, professeure agrégée en arts plastiques à l'Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3, évoquait quant à elle notre jugement d'homme moderne sur le mésolithique et ses productions esthétiques, autrement dit, l'art dans la préhistoire. Restez à l'écoute de Canal Académie et téléchargez les trois autres volets consacrés à l'histoire de la préhistoire, un colloque qui avait lieu en juin 2009 à l'Institut de paléontologie humaine à Paris. Pour plus d'informations, connectez-vous au site de la Fondation de l'Institut de paléontologie humaine et restez bien sûr à l'écoute de Canal Académie. Cliquez sur notre thème paléontologie préhistoire et retrouvez nos émissions en compagnie du professeur Henri Delumelay, Arnaud Hurel, Amélie Viellet, Yves Coppens, Philippe Janvier, Philippe Taquet et bien d'autres. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.